102.1, votre partner de show. Marceau, le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir, le soir, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue dans Marceau le soir, c'est la première de la saison, j'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Moi je suis très content de revenir de mes 3 semaines de congé, je me suis ennuyé de mes collaborateurs et ben voilà, oui j'ai passé des belles vacances, j'espère que vous, vous en avez passé de belles tout autant. Si c'est pas encore terminé, ben lâchez pas, profitez du temps qui vous est octroyé pour être avec vos proches, les gens que vous aimez, pour faire des activités que vous aimez. Puis je salue tout le monde qui est revenu. Genre, je pense entre autres aux travailleurs de la construction que j'ai vus ce matin sur les routes, qui ont recommencé à travailler. Lâchez pas, pas un job facile. Merci d'être là. À chaque lundi, d'habitude, on parle avec Maître Marc Bellemare, mais Maître Bellemare est en vacances, ce qui fait en sorte que j'ai été chercher mon deuxième préféré. Et je pense que c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Son nom, c'est Martin Bourget. Comment ça va, mon ami, mon spécialiste chasse-pêche?
Ça va super bien. Toi, deuxième préféré, on va m'en souvenir longtemps. Je te le dis de même, là, prends ça en note. Là.
Ouais, mais ça va avec le compte en banque, hein?
Ah ben, écoute, je peux être ton 15e rendu là.
Effectivement. Parle-moi un peu de ton entreprise, là.
Ben écoute, Aventure Chasse-Pêche, pour ceux qui chassent et qui pêchent et qui ne connaissent pas Aventure Chasse-Pêche, ce qui serait rare, ce qui serait des exceptions, rapidement, là, rendez-vous sur le web, vous allez vous rendre compte un petit peu de qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Hein. Aventure Chasse-Pêche, c'est d'abord et avant tout une émission de télévision et un magazine trimestriel là, dans les alentours de 180 à 250 pages, dépendamment des éditions. La dernière édition vient tout juste de sortir, fait que les chasseurs d'orignaux et les pêcheurs d'automne, c'est le temps d'aller chercher votre contenu. Bourré de contenu, on se spécialise dans des essais à long terme sur le terrain avant de vous parler de quoi que ce soit. Ça fait un contenu qui est vraiment très complet. C'est une émission de télé, 26 épisodes d'une heure par année. C'est rare, il n'y en a pas d'autres comme ça au Canada en français, qui est diffusée sur les chaînes que vous pouvez prendre assez facilement, hein, que ce soit sur Télémag, sur Carbon TV, nouvellement à partir du 25 septembre sur Sportsman Channel à la grandeur du Canada en anglais, sur Carbon TV, c'est à la grandeur du monde, et sur Zone 300 maintenant, sur l'application Zone 300 à la grandeur du monde en français. Qu'est-ce qu'on fait dans ces émissions-là? On a un beau reportage généralement d'une demi-heure au centre de l'émission qui va être soit une chasse, une pêche ou la réhabilitation d'un territoire pour le cerf de Virginie ou peu importe quelle autre espèce animalière. Puis on a 3 à 4 segments qui sont des segments un petit peu plus de type review, où est-ce qu'on va parler de soit de techniques de chasse, de techniques de pêche. On va recevoir des biologistes, on va vous présenter des items, on va vous présenter des dossiers chauds comme la C21, par exemple, dans les dernières années. Ouais. Et ça, c'est tous les jeudis soirs, 21h sur les ondes de Télémag, puis en même temps à 21h sur Facebook puis sur YouTube maintenant partout. On est en onde toute l'année parce que à partir de la fin avril, on tombe en rediffusion puis on reprend la saison originale là, en septembre, là, ça s'en vient.
Puis dis-moi, quand tes émissions sont présentées en anglais, c'est toi et Kate qui parlez puis il y a une traduction en dessous ou bien vous les refaites carrément en anglais?
Pour l'instant, c'est du sous-titrage en anglais. OK. On est à faire les takes en double présentement, c'est-à-dire reprendre la prise une deuxième fois. Quoique l'Orignal ne collabore pas beaucoup à ça, on ne peut pas faire un take two avec un petit inside, mais remettre un Orignal debout pour le faire une deuxième fois, ce serait assez macabre. Mais on fait au moins dans le possible, on fait une deuxième, pendant que l'émotion est encore là, on fait une deuxième prise en anglais. Fait qu'on est en train de cumuler là, une certaine quantité d'émissions. On cible celles qu'on prépare en anglais, évidemment. Question de créer, parce qu'en anglais, c'est 13 émissions par année qu'on va diffuser par 13 émissions par saison, c'est ça qu'on va diffuser pour les 2 premières années, puis on va tomber avec 26, mais bientôt, vous allez avoir le contenu là, pour les anglophones en anglais, malgré que c'est drôle, parce que quand on parle avec les diffuseurs, ils nous disent souvent, ben c'est tout un ou tout l'autre. On a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui aiment entendre parler français et lire en anglais. Il y a un petit quelque chose d'exotique là-dedans. Mais gênez-vous pas de parler en anglais, même si vous n'êtes pas parfaitement bilingue, parce que cette espèce d'accent québécois-là, les Américains l'achètent énormément en émission de télévision.
OK.
On prépare la prochaine, là, la prochaine salve sera en anglais, pour l'instant sous-titré en anglais. Et on n'a pas eu le temps de refaire tout ça. Là.
Mais moi, que Kate me parle en français ou en anglais, là, c'est correct. Là.
C'est... Écoute, on, c'est ça, là, c'est... Nos codes d'écoute proviennent de là, hein?
Tout le succès est dû à Kate.
Exactement. Moi, je fais l'administratif en arrière, puis je vais faire bonjour à TV.
C'est ça. T'es le boulet. T'es le boulet. Ah, ben ouais. T'es le boulet nécessaire à cette émission.
15e budgétairement parlant. Je suis rendu le boulet. On s'en va loin.
Wow. Hey, pourquoi on se parle? Ben, on parle de chasse et de pêche. On a divers sujets à jaser durant la prochaine heure. Puis, il y en a un qui a popé là, dans les derniers jours. C'est la fameuse présence du bar rayé. On en a parlé il y a de ça quelques années, toi et moi, là, le fameux bar rayé qui était considéré comme une espèce en voie de disparition. C'est-tu le maire Labeaume aussi qui avait parlé du bar rayé? C'était-tu ça?
Non, ça, c'était la carpe asiatique.
C'était la carpe asiatique.
Je ne dormirai point tant que ce dossier ne sera pas réglé. Ouais. C'était la dernière fois qu'on en entendait parler.
Vraiment, il dort bien ces temps-ci.
Oui.
Mais le bar rayé, c'était une espèce qui est protégée. Et là, dans un article qui date du 6 août, c'est-à-dire hier, un article du Soleil par Gilles Gagné, on nous mentionne que le bar rayé, il y en a plus qu'on en aurait de besoin.
Énormément. Puis, tu sais, on faisait, si je ne me trompe pas, il y a 5 ou 6 ans, on recevait un biologiste du ministère. Et lui, ce qu'il faisait, là, c'est que, essentiellement, tu sais, il y a plusieurs populations de bar rayé. On parle de la population de la baie de Fundy, la population du fleuve Saint-Laurent et la population du golfe du Saint-Laurent, qui sont des populations qui sont distinctes. Tu sais, baie de Fundy, c'est les maritimes. Nous autres, c'est Québec, donc fleuve Saint-Laurent. Puis Golfe Saint-Laurent, pour vous situer, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient mettre des micro-puces, des petites puces émettrices GPS, au bord rayé d'une population, et mettaient des bandes de recensement dans les autres secteurs pour voir si les populations se promenaient d'une place à l'autre. Et déjà à ce moment-là, il y a 4 ou 5 ans, le biologiste qui est en studio nous parlait d'une forte présence du bord rayé dans le fleuve Saint-Laurent. Et les pêcheurs, qui, comme les chasseurs, sont les yeux de la nature, bien, nous disaient déjà, quand on pêche au doré, par exemple, là, on prend quand même pas mal de bar rayé. Mais à cette époque-là, il y a 5-6 ans, on parlait, mettons, jusqu'aux îles de Montmagny. Là, ce secteur-là, là, on en pognait beaucoup. Mais là, dernièrement, là, dans le fleuve Saint-Laurent, là, à hauteur de Québec, puis même Grondine, ces coins-là, tu essaies de pêcher du doré, là, du bar rayé, tu vas en sortir, c'est un moyen temps. Là. Parle aux gars qui pêchent sur le fleuve, là, du bar rayé, et c'est de la prise accidentelle. C'est pas ciblé. On jigue où on est à la traîne avec des marcheurs de fond puis des harnais à dorer, puis on pogne du bar rayé. Il est très, très, très présent. Puis déjà, dans les 5 dernières années, bien, les saumoniers nous parlaient beaucoup, beaucoup de la présence des grands bars rayés à la base des rivières à saumon, puis ça les inquiétait. Il y a eu beaucoup de litiges là-dessus. Aller jusqu'à ce que certains saumoniers capturent des bars rayés dans des secteurs où est-ce que c'était possible de les capturer et de les garder pour les consommer. Et quand ils éviscéraient leurs bars rayés, ben, ils retrouvaient des tacons. Des tacons, c'est des bébés saumons. Dans le ventre, dans la bedaine des bars rayés. Ils ont retrouvé des bébés homards, ils ont retrouvé toutes sortes de patentes, mais ils ont retrouvé des tacons, donc des bébés saumons. On savait déjà que c'était potentiellement problématique, puis tout le Nouveau-Brunswick, toutes les maritimes levaient le flag déjà, fait comme « yeah, tabarouette, il est très présent ». Nos eaux se réchauffent, il y a de l'érosion des rives, les forestières rentrent là-dedans. Et là, on a un grand poisson qui est protégé, auquel on fait très attention, qui est le saumon, qui voit son habitat se faire désagréger. On y retire énormément d'avantages. Et on avantage le même territoire à la montaison du bar rayé ou à la vie, à la reproduction du bar rayé dans les mêmes territoires. Fait que là, tu arrives avec des espèces qui sont en compétition. Et un mange l'autre, on l'a vu dans la bedaine des bar rayés réellement sur la rive avec des saumoniers. Fait que c'est sûr qu'on n'est même plus au point de lever le flag à dire « faudrait augmenter la pêche au bar rayé ». On est même dépassé ce stade-là. Ça fait des années qu'on le dit. Tu sais, faire un petit peu d'histoire, là, le bar rayé, il a disparu presque complètement dans le fleuve Saint-Laurent. Okay. À ce moment-là, un ministère qui est Pêcherie Océan Canada, donc du côté du fédéral, c'est eux qui sont responsables du statut, de la reconnaissance du statut des espèces. Ils ont mis le bar rayé des 3 populations en péril et celui du fleuve Saint-Laurent en voie de disparition. Entre-temps, il y a la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qui, au travers de l'opération Renaissance, ont mis quelques 34 millions de larves, 17 000 juviniles et environ 3 500 bars rayés adultes entre 2002 et 2013 dans le fleuve Saint-Laurent. Puis tout ce monde-là, ça s'est mis à faire des bébés. Les populations ont réaugmenté énormément, puis on n'a jamais, du côté fédéral, réadressé le statut. Ce qui fait que, quand ton statut est en péril pour une espèce aquatique, tu n'as pas le droit de le cibler, et c'est remise à l'eau obligatoire.
Okay.
Alors, depuis l'opération Renaissance qui visait à repeupler justement pour redonner cette pêche sportive-là qui était très, très, très présente dans le passé, dans le fleuve Saint-Laurent, il y a eu des concours là, de pêche au bord rayé, littéralement, tellement il y avait du bord rayé. C'est un très bon poisson à consommer et on voulait redonner cette pêche-là. Mais à un moment donné, c'est comme dans le cerf de Virginie ou dans l'orignal, t'as un moyen, ou dans l'ours, c'est un moyen de contrôle des populations qui est de la prédation principalement faite par l'homme qui va contrôler l'expansion des troupeaux, des cheptels ou des quantités de poissons. Un petit peu comme, par exemple, le phoque présentement qui est en train de passer au travers des stocks de morue. Puis on dit, ben le moyen pour régler ça, c'est de mettre une chasse en place et de laisser les gens chasser quand même pas mal le phoque pour redonner un peu le territoire à la morue dans certains secteurs et d'autres poissons commerciaux. Ben, le même problème, on le constate ici, c'est que là, il y a eu des efforts de réintroduction, les populations ont augmenté d'un trait, puis jamais le fédéral a réadressé le statut du bord rayé, donc on n'a jamais pu le permettre la pêche. On a, il y a quelques années, commencé à ouvrir l'autorisation de conserver des bords rayés. La première frange s'est faite aller jusqu'aux îles de Montmagny, même un petit peu plus bas, puis après ça, on est monté jusqu'au site de Montmagny, où est-ce qu'on peut garder un ou deux bords rayés, dépendamment des secteurs. Mais comme tout le monde le dit, et c'est un peu ce que fait aussi Pete Dubé comme constat, c'est trop peu, trop tard. Même si aujourd'hui, on est en train d'augmenter les efforts de pêche aux bords rayés et d'augmenter, ou du moins, de donner des limites intéressantes aux gens qui puissent les conserver et le consommer, parce que je me répète, sur le plan culinaire, c'est un poisson qui est excellent, un poisson à chair blanche, une petite chair floconneuse super tripante. Les enfants, généralement, aiment ça parce que c'est pas aussi poissonneux au goût, par exemple, qu'une grosse truite mouchetée. Fait que c'est agréable, ça s'assaisonne bien. On pourrait faire des grandes tables 5 étoiles avec ça. Là, les gens l'accepteraient dans le menu 5 étoiles tellement c'est bon comme poisson, tellement c'est intéressant. Mais on est rendu à un point où est-ce que même si on mettrait tous ces efforts de capture ou de récolte-là en place, bien, on n'arriverait pas à reprendre le dessus sur les populations de bords rayés parce que la désignation de l'espèce a trop niaisé. Puis tant que la désignation de l'espèce ne bouge pas, bien, de notre côté, le gouvernement du Québec ne peut rien faire pour permettre plus à ses utilisateurs au niveau de la capture.
Est-ce qu'on sait pourquoi le bord rayé avait disparu?
C'est de la surpêche. C'est littéralement de la surpêche.
Ouais.
C'est littéralement de la surpêche. Puis à un moment donné, bien, quand dans ton équation, ben, dans un milieu, tu sais, tu as toujours une capacité de soutien d'un milieu. Hein? Si chez nous, on a une livre de steak haché, ben, on peut faire des burgers pour, mettons, 4 personnes. Je ne sais pas si je suis bon, je ne suis pas bon dans le calcul. Ben, ça, c'est ma capacité de soutien. Je suis capable de soutenir 4 personnes. Dans une forêt pour des chevreuils ou des orignaux, ou encore dans un cours d'eau, ben, tu as une capacité de soutien maximale du milieu. Ben, quand tu diminues une population, nécessairement, il y a une autre population qui prend la place, comme vous l'observez dans la Gélinia Dupé par rapport aux lynx puis aux coyotes. Hein, les femelles lynx vont mettre au monde plus de bébés lorsqu'il y a une forte présence en lièvre et en perdrix, ce qui va faire que les années d'après, on va avoir un certain cycle, on va baisser en termes de quantité de perdrix et de lièvre. Bien, dans le milieu aquatique, c'est la même chose. On surpêche un poisson ou encore on arrête d'en pêcher un autre puis il s'en va en surnombre, comme c'est le cas avec le phoque. Eh bien, l'espèce qui est prédatée ou l'espèce qui est compétitrice sur le plan alimentaire mange la claque. Fait qu'on a donné une grosse claque. Tu sais, 1955, déjà, là, on notait des grosses diminutions. Là. Aller jusqu'en 1965, on a arrêté complètement. Là, en 55, il y a un cri d'alarme qui a été lancé. En 65, on a complètement arrêté la pêche commerciale. Puis quelques années après, si je ne me trompe pas, c'est 66 ou 67, on a arrêté la pêche sportive au bord rayé aussi parce qu'il y avait ce déclin-là. Puis évidemment, ben, le fleuve Saint-Laurent, les espèces qui sont très présentes, comme par exemple le doré ou encore le brochet, prennent le dessus sur le milieu, puis on voit l'espèce se retirer peu à peu. C'est la raison pour laquelle, là, à la fin des années 90, le fleuve était plus à propos pour potentiellement réintroduire des poissons. Il a commencé à avoir des plans d'ensemencement qui ont été mis en place. Puis 2002-2013, bien, c'est là qu'on l'a réinséré. Mais c'est vraiment la surpêche de ce poisson-là. Puis, évidemment, la suprématie des autres espèces parce que l'espèce est en trop petit nombre qui a fait qu'il a presque disparu complètement ou qui était très, très rare qu'on pouvait observer un bar-rayé à ce moment-là.
Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, le bar-rayé tente de prendre les rivières puis les grimper? C'est le réchauffement climatique?
Première des choses, si tu remplis une chaudière, puis elle remplit la capacité, c'est-à-dire que la population maximale est établie dans un cours d'eau, puis tu continues à essayer de mettre de l'eau, ça déborde. Ça, c'est le premier constat. Hein, il va essayer de se garrocher ailleurs. Maintenant, il faut que ce ailleurs-là soit propice pour le bar-rayé. Les rivières à saumon, généralement, ne le sont pas nécessairement, puisque leur configuration géographique, la température de l'eau, c'est pas l'habitat idéal pour le bar-rayé à la base, une rivière à saumon. Ça reste trop froid. Les débits d'eau ne sont pas tout à fait les bons. Par contre, dans les dernières années, avec l'effervescence des travaux forestiers en bord des rivières et en bord des lacs, eh bien, on a créé un énorme problème. On a créé un problème où est-ce que l'érosion des berges s'est agrandie à une vitesse faramineuse. La rectitude des rivières, les rivières tantôt sinueuses, de par la fonte des glaces qui descend maintenant beaucoup plus rapidement puisque de trop grandes étendues d'eau n'ont rien pour les breaker, donc on a coupé trop d'arbres. Eh bien, quand les glaces passent, ça joue, dans l'article justement, Pierre Dubé parle de bulldozer, ça joue au bulldozer, ça gratte les fosses, ça sédimente les autres fosses à saumon, il y a un grand, grand, grand débit, puis tu te ramasses avec une surface d'eau qui est beaucoup plus large. Alors, plus, on va dire ça comme ça, plus ta surface de contact air-eau est élevée, plus ton eau va se réchauffer rapidement. Hein? Tu vas mettre la même quantité d'eau dans une petite rivière que dans un grand lac peu profond. Le grand lac peu profond va se réchauffer beaucoup plus rapidement dû à sa superficie de contact avec les éléments, c'est-à-dire l'air. Donc, l'air qui est un facteur, oui, de refroidissement, mais c'est aussi un facteur d'échange gazeux avec le milieu aquatique, hein, le fameux cycle de l'azote. Puis c'est aussi un agrandissement de territoire où est-ce que le soleil peut frapper et réchauffer. Fait que nos rivières ont augmenté en température énormément. C'est pas rare aujourd'hui, très tôt en saison, de rencontrer des 23, 24, 25, 26 degrés Celsius sur les rivières à saumon, ce qui est très peu propice pour le saumon, mais qui est très propice pour le bar-rayé. Fait que la situation, c'est que le territoire, ou du moins l'habitat qui jadis était propre au saumon, s'en vient de plus en plus propre au bar-rayé. Et les grands coupables là-dedans sont les travaux forestiers. Définitivement, on a coupé beaucoup trop sur de trop grandes étendues puis trop proches des rives. On a accentué l'érosion des berges. On a diminué le facteur coupe-vent, coupe-soleil. On a retiré tous les facteurs de protection ou les facteurs qui faisaient que la rivière était intrinsèque avec son biotope. On a tout scrappé ça. Puis là, on est face à deux problèmes. Une surpopulation de bar-rayés qui doit déborder en quelque part parce qu'il y en a trop dans le fleuve qu'on ne le pêche pas, puis on aurait dû commencer à le pêcher il y a longtemps. Puis une amélioration des conditions idéales aux bar-rayés dans les rivières à saumon au détriment des saumons. Fait qu'on se ramasse avec un Christi de problème.
Ouais, il y a eu des données qui ont été prises, des données hydrologiques là, qui ont été prises pendant 41 ans. Puis ça, c'est de façon ininterrompue, là, pendant 41 ans. Et on s'est aperçu que dans la rivière Restigouche, le débit d'eau a augmenté de 450%.
Hey, c'est fou raide, là.
Entre 62 et 2003.
C'est fou raide, là. Fait que ton iceberg qui passait, ou ton glacier qui passait tranquillement, là, il passait au-dessus des fosses, il grattait rien, il suivait le sillon de la rivière. À cette vitesse-là, là, s'il y a un S dans la rivière, là, un beau petit sillon, parce qu'il faut savoir que une rivière qui est sinueuse va former des fosses. Dans les apex des courbes, là où le courant est ralenti, il doit changer de place, ça va former des fosses qui sont propices au saumon, énormément propices au saumon. Et puis, si tu as en plus une bande riveraine qui est boisée, mettre une protection du soleil de ces fosses-là qui fait que l'eau ne monte pas trop en température. Là, à 450% d'augmentation du débit, là, les mêmes glaces, quand ils passent, là, ton S, ils font un I avec. Ils scrapent tout. Ils te mettent ça bien droit. Fait que là, c'est les fosses, il n'y en a plus. Celles qui restent, ils se font enterrer parce que la première des choses, on a étendu, donc on a, tu répartis le sol aussi, tu as de moins en moins d'épaisseur d'eau. Hein. Il parle aussi, Pete, de certaines fosses là, qui avaient 40 pieds dans le passé, qui depuis cette augmentation de débit-là, mais ces mêmes fosses-là, on les traverse avec des bottes à vache, hein, des bottes tubes d'été normal. Là.
Puis c'était à 12 donc, mètres avant?
Oui, 12 mètres avant, c'est rendu tes traverses en bottes. Parce que quand les glaces passent, ça vient enterrer. Puis évidemment, mais ces fosses-là sont nécessaires à la survie du saumon. Là, tu viens scraper les fosses complètement. Ouais. Il n'y a plus de profondeur. Puis le manque de profondeur fait que ça réchauffe dans le temps de le dire. Les saumons vont sacrer dans le fond des fosses, là où est-ce que l'eau est encore fraîche le plus possible pour survivre et s'oxygéner. Parce que on va faire une petite leçon bien rapide qui est facile à retenir. Là. Dans un verre d'eau, il est possible de dissoudre un certain nombre de gaz. Que ce soit du CO2 ou de l'oxygène, là, il y a une certaine capacité à dissoudre du gaz là-dedans. Dans notre cas, ce qui va nous intéresser, ça va être l'oxygène. Plus tu augmentes ton eau en température, plus ton potentiel en termes de quantité de gaz dissous diminue. Fait que plus que l'eau est chaude, moins qu'il y a d'oxygène dedans. Alors le saumon, il va s'en aller vers les eaux fraîches et oxygénées. Là, tu réduis la profondeur de tes rivières, tu en augmentes la température. Ce n'est pas juste au niveau de son thermoclime, parce que tous les animaux vont avoir un thermoclime, c'est-à-dire une température d'évolution idéale. Mais ce n'est pas juste au niveau de son thermoclime qui va être gêné. C'est carrément au niveau de la disponibilité de l'oxygène. C'est sa survie qui est en jeu, là, littéralement. Donc, tu sais, dans l'article, tu le vois, là, il nous dit que, d'après lui, il reste peut-être un genre de 10 ans de pêche au saumon au Québec. Environ, là, si la situation ne s'améliore pas. Puis, ce serait à coup de milliards de dollars si on voudrait refaire les lits de rivière, comme ça s'est fait ici, entre autres, dans le coin de partir de Saint-Jacques-de-Leeds jusqu'à Saint-Gilles-de-Lobinière. Ils ont fait d'énormes travaux sur une rivière qui était rendue rectiligne parce que c'était plus facile pour les cultivateurs dans ce coin-là de gérer avec une rivière droite qu'une rivière courbe. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont redonné justement le point de vue sinueux. Ils ont refait les fosses dans la rivière de Saint-Jacques-de-Leeds, aller jusqu'à Saint-Gilles-de-Lobinière pour redonner le milieu à, dans ce cas-ci, l'ombre de fontaine, la truite mouchetée. Bien, il faudrait faire la même chose dans ces grandes rivières-là. Mais là, c'est des grosses rivières. Là. C'est à coût de milliards par rivière. Ça a été fait en Nouvelle-Écosse dans une rivière. Là. C'est des coûts faramineux. Ce serait la seule solution à réhabiliter chacune de ces rivières-là. Mais ça, tu sais quoi, Yannick? J'y crois très peu parce que quand tu es stratège politique, hein, c'est-tu payant d'écrire sur le plateau Mont-Royal ou au centre-ville de Québec que tu as mis un milliard pour refaire une rivière?
Non, pas en même temps. Tu me parles d'un milliard là, parce que c'était ça le coût ailleurs, mais ici, là, on va se le dire, c'est à peu près 3-4 fois le prix. Là. Ça, c'est pour le plus bas soumissionnaire.
Oui, exactement. Exactement. Fait que, définitivement, notre saumon, qui est c'est notre roi des rivières, c'est un emblème. Mais c'est aussi un peu comme l'orignal est à la forêt. C'est aussi un indice de la qualité du milieu. Hein. Quand ton saumon fout le camp, hein, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas bien. Il n'y a pas juste le saumon qui fout le camp. Parce que des rivières dans lesquelles le saumon est serein, qui évolue, puis hein, vous le savez, un saumon, il évolue en mer, il monte en rivière pour monter se reproduire, puis il va retourner en graissant en mer s'il ne meurt pas dans ce qu'on appelle le cimetière en tête de la rivière. Donc, le saumon, c'est son air naturel pour aller se reproduire. Mais s'il est serein dans son milieu, dites-vous qu'il y a des centaines d'autres petites espèces d'insectes, de larves, de ménées, d'autres poissons qui évoluent dans le même milieu que le saumon. Alors, si le saumon commence à mal aller, ça n'est qu'un indicateur. Ce n'est pas juste le saumon. Il est représentant, lui, d'un groupe d'espèces qui évoluent dans le même biotope que lui. Puis là, mais son biotope commence à être de moins en moins propice à sa survie. Ça, c'est ce qu'on voit parce qu'on connaît le saumon. Ça veut dire que c'est la même chose pour des centaines d'espèces.
Parlant du saumon, le gouvernement provincial qui a mis fin abruptement à la saison de pêche sportive pour les petits saumons de l'Atlantique, c'était arrivé ça quoi jeudi passé. Puis ça, c'est sur plusieurs rivières de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la capitale nationale. Ce qu'on veut, en fait, c'est protéger la ressource pour les années à venir. Et là, on parle des petits saumons de 63 cm et moins qui devront être remis à l'eau dans certaines de ces rivières-là. Ton avis en tant que président du groupe Aventure Chasse-Pêche, Martin Bourget, c'est quoi?
Je trouve qu'ils vont fort un peu avec le titre. Je trouve qu'ils vont fort. Mettre fin abruptement. pour quelqu'un qui connaît les saumoniers, je ne suis pas un saumonier. Hein, on va parler de quelqu'un dans cet article-là avec qui, justement, on est allé à la pêche au saumon pour s'initier, qui était moi cette année. On parlait de Myriam Bergeron, qui est la directrice générale de Saumon Québec. Je ne suis pas un grand saumonier, mais on leur parle souvent. Ce sont des auditeurs à nous autres. Les saumoniers, là, il y a une très, très grande partie des saumoniers qui, lorsqu'ils s'en vont chercher leur permis de pêche pour le saumon, ils prennent un permis avec remise à l'eau obligatoire. Parce qu'ils n'ont aucunement l'intention de conserver un saumon. Ils vont en faire la pêche sportive, mais ils vont exercer des pratiques, des saines pratiques de remise à l'eau pour remettre ces poissons-là à l'eau. Fait que déjà, de dire qu'on met fin abruptement à la saison de pêche sportive, bien, il y a une très grande majorité de ces pêcheurs-là qui, de toute façon, ne les conservaient pas au départ. Et évidemment, lorsqu'il y a des saumons qui sont conservés, hein, lorsqu'on prend les fameux permis qui... Tu sais, un permis de saumon, là, en passant, là, annuel, moins de 65 ans, les gens disent « c'est pas accessible, c'est 24,85 $ ».
Oh!
OK? Si tu le prends avec remise à l'eau obligatoire, résident, c'est 14,21 $. Excuse-moi, ça, c'est le permis de pêche sportive général. Excuse-moi, je me trompe. 55,53 $. Le permis annuel. 24,20 $, c'est avec remise à l'eau obligatoire. Fait que 55 $, hein, tu pêches le saumon. C'est, évidemment, il faut que tu t'enregistres au poste d'accueil des différentes rivières à saumon. Là. Mm-hmm. Il y a toujours un petit frais à ça. Mais c'est 55 $ pour le permis annuel. Ça, c'est ceux qui désirent garder des saumons. Et ceux qui conservaient des saumons, bien, évidemment, la majorité des saumons qui étaient conservés parce que les grands saumons étaient déjà protégés, ce sont des grilles ou des petits saumons en bas de 63 cm qui sont conservés. Maintenant, Si on lit agilement l'article, on se rend compte qu'on n'a pas barré les petits saumons parce que parce qu'on voit une problématique dans la population de saumon au général. Le grand saumon va très bien. On cible vraiment le petit saumon parce qu'il est faiblement représenté. Tu sais qu'il y a des rivières dans lesquelles il y a des plongeurs qui descendent de la rivière d'en haut à en bas de la rivière. Ils passent dans chacune des fosses, puis ils ont un clicker dans les mains, puis ils cliquent une fois, à chaque fois qu'ils voient les saumons. Hein, ils font le décompte des saumons.
Okay.
Ce sont des populations qui sont suivies de manière très, très, très rigoureuse. Myriam en parle justement dans l'article, le fait que les différents gestionnaires sont responsables de la gestion de leur population de saumons et de rapporter un peu les quantités de saumons qui ont monté dans leur rivière. Hein, on a toujours comme saumonier l'information. Dans la rivière, il y a 54 saumons de montée, il y en a 32 qui ont été pris ou du moins qui ont été piqués, là, qui ont été vaccinés, qu'on dit. Là. Donc, quelqu'un l'a pris et l'a remis à l'eau. Dans l'autre rivière, c'est 112 saumons. Oups, ici, il y a 4 saumons qui ont rentré pendant l'année. Et on sait qu'est-ce qui se passe. Les passes à saumons sont là, on connaît les quantités. Puis un petit peu comme dans le cerf de Virginie, puis je fais souvent l'analogie entre les deux parce que les gens, le cerf de Virginie, c'est très, très, très émotif puis ils sont capables de faire les calculs facilement. Tes bébés, c'est ton REER. Tes bébés, c'est tes futurs reproducteurs. La raison pour laquelle on essaie de protéger le cerf sans bois dans plusieurs secteurs, eh bien, c'est parce que les cerfs avec bois, éventuellement, ils sont plus capables de faire des bébés. Hein. Tu comprends-tu qu'ils ne sont pas vasectomisés, mais ils sont plus bons à rien. Ça prend à un moment donné des genoux qui sont à l'entraînement.
On salue les hommes qui sont...
Écoute, rendu à un certain âge, je n'ai plus du liquide, c'est de la poudre, ça ne donne rien.
On salue les vasectomisés à l'entraînement.
Hey, j'en fais partie. On se porte un club. Les saumons, c'est la même chose.
Okay.
Les grands saumons, dû à l'effort considérable qui est donné par un saumon pour terminer sa montaison en rivière, pour faire le simple geste que d'aller répandre sa semence sur des œufs qui ont été déposés au fond, dépendamment de l'âge qu'il a, combien d'années en mer il a passé ce saumon-là, c'est assez pour mettre fin à ses jours. Il va aller mourir. On appelle certaines têtes de rivière des cimetières ou des mouroirs à saumon. Parce qu'il a tout donné, c'est sa dernière année, puis il va aller mourir. Ça prend la relève en arrière de ça.
Okay. Hey Martin, j'ai une question niaiseuse. Puis là, il y a des auditeurs qui vont dire « on savait que tu étais niaiseux ». Fait que je peux le démontrer par cette question-là. Au pied des chutes Montmorency, là, il y a du saumon, là. OK. Le petit saumon qui se trouve là, il peut pas remonter à Rivière-Montmorency.
Là. Non, là, il y a un obstacle infranchissable.
Voilà.
Okay. C'est la raison pour laquelle, puis tu sais, même plus petit que ça, souvent, il ne remontera pas. Là. Il y a certaines chutes sur certaines des grandes rivières dont on parlait tout à l'heure où est-ce qu'on met des passes à saumon. Donc, les saumons vont monter dans un réservoir.
OK.
Puis on va les transférer en amont de la chute. On va les transférer en haut de la chute. Donc, ils ne seront pas capables. Mais eux autres, ils suivent le courant qui... Ils vont prendre de la mer, ils vont prendre l'eau douce puis ils vont suivre les courants. Et c'est un saumon, c'est toujours face au courant, puis il va suivre le courant, puis il va trouver la rivière, puis il va grimper dans la rivière. Okay. Mais là, dans ce cas-ci, il se ramasse dans un cul-de-sac. C'est ça, coup, il revient de bord.
Mais c'est ça, mais il y a du petit saumon là, là.
Oh, oui, il y en a, okay. il y en a. Il y a du grand saumon, puis il y a du petit saumon. Il y a des grands saumons qui viennent se péter la face là, au pied des chutes Montmorency. Là. Et c'est, je veux dire, c'est pas, c'est, ce serait pas non usuel que d'en voir s'essayer dans la chute, là, à la base de la chute, les voir faire un petit saut ou deux, là, définitivement.
À un moment donné, un gars s'essaye, là, après ça, on va aller faire ça ailleurs.
Ouais, ça te prend un méchant moteur montant en haut, celle-là. Là. Honnêtement, c'est du stock. Ben oui, il y en a, petit,
Tu sais, moi, je ne suis pas un spécialiste comme toi de chasse et de pêche, puis ce qu'on m'avait raconté du temps où j'étais petit, c'est que les saumons retournaient à l'endroit où ils étaient nés, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais quand j'ai su qu'il y avait du saumon à Chute Montmorency, je me suis dit, mais voyons donc, ciboire, comment ils pourraient remonter là? C'est impossible. C'est pour ça que je t'ai posé la question.
Ben, écoute, puis il faudrait parler, ce serait une bonne idée éventuellement d'avoir Myriam avec nous autres en entrevue, parce que Myriam pourrait nous en donner plus. Myriam est biologiste aussi, la directrice générale de Saumon Québec, hein, la Fédération québécoise pour le saumon de l'Atlantique. Donc, eux, ils sont spécialisés là-dedans. Est-ce qu'il y en a qui réussissent à frayer en la barre de ça? J'en ai aucune espèce d'idée. Je pourrais pas donner la réponse, mais définitivement, il y en a qui se ramassent ça. La croyance du saumon qui retourne où est-ce qu'il est né, je crois que c'est exact. Je crois que c'est exact. Il y a un GPS inné là-dedans, puis ça remonte d'où ça vient, littéralement. Il va aller vraiment se gaver en mer. Il va aller se nourrir en mer, parce que quand il est dans la rivière, le saumon, il ne se nourrit pas. Quand tu lui envoies une mouche, lorsqu'il attaque la mouche, parce qu'en passant, la seule façon de pêcher le saumon au Québec, c'est évidemment avec une ligne à moucher. Hein, c'est interdit de s'approcher même d'une rivière à saumon avec une ligne à lancer léger. Et on va lui présenter des mouches. Mais l'attaque qu'on va avoir est une attaque territoriale. Le saumon va prendre la mouche dans sa gueule. Puis ça, là, on l'a observé à plusieurs reprises. Si tu ne ferres pas ton saumon, là, le saumon, il prend la mouche dans sa gueule puis il s'en va la recracher au bout de sa fosse.
OK. Oh.
Il a tasse de là. C'est un sédiment qui est dérangeant pour lui. C'est une agression. Il ne se nourrit pas en rivière. Il se nourrit dans l'océan, puis il ne remange pas jusqu'à temps qu'il aille faire la job qu'il y a à faire, puis de là, ben certains vont redescendre, certains vont y rester.
OK. Hein? On en sort-tu des histoires, nous autres? Les histoires voilà. De nos grands-mères.
On va dire des années en mer, tu as des poissons qui vont passer des années en mer puis qui vont finir par faire, puis ça, c'est encore là, tu sais, je suis pas biologiste, non? Mais de ce qu'on comprend, c'est que tu as des saumons qui vont passer des années en mer avant de faire leur montaison. Tu as des grilles, des petits saumons qui vont monter dès la première année, qui vont monter, puis ça va être leur dernière montée. C'est assez particulier. Mais les grands saumons qu'on va voir en rivière, souvent, ont passé plusieurs années en mer avant même de monter la rivière pour une première fois jusqu'à son embout, puis aller faire la job qu'il va faire.
OK. Puis avec...
Et mourir.
Ouais, tu m'as dit tantôt, il y a une interdiction là, pour ce qui est de la pêche au saumon, pour ceux qui veulent pêcher avec un lancer léger, c'est ça que tu as dit?
Oui, effectivement.
Explique-nous, c'est quoi la différence entre les deux? Là?
Ben, les canapèches que vous avez pour aller à la truite mouchetée, là, les canapèches sont faites pour lancer un leurre là, avec un moulinet à manivelle sur le côté. Là. Uh-huh. C'est ce qu'on appelle des lancers légers et des lancers lourds, des bait casting ou des spinning. Là. Donc, des moulinets de casting ou des moulinets de spinning, eh bien, c'est interdit. Là. C'est des canapèches après lesquelles on va mettre, par exemple, des jigs ou des rapalas ou des trucs comme ça. On n'a pas le droit de pêcher ça.
Okay, pourquoi c'est interdit?
Bien, parce qu'on blesserait trop de saumon. Je veux dire, les gens, en descendant dans les fosses avec ça, probablement qu'ils, première des choses, blesseraient trop de saumon. Si on prend, par exemple, un poisson nageur, tu as deux sets de trois, tu as deux crochets à trois hameçons après ça. Donc, ce serait facile de blesser un saumon et de le ramener en le gigant, entre parenthèses. Si on pêche avec des jigs ou encore des plus gros leurres ou des leurres standards, même de lancer léger, bien, les hameçons sont quand même assez grosses. Fait que le dommage que tu vas créer au saumon est quand même assez large. La mouche, elle est fine. Elle a un petit hameçon. Hameçon qui va être facile à déloger. Plusieurs vont même écraser l'ardillon. L'ardillon, c'est la partie qui empêche l'hameçon de ressortir de la peau quand tu te le piques dans un pouce. Là. Bien, ils vont écraser ce petit crochet-là pour donner une chance supplémentaire au saumon. Il va se décrocher plus facilement pendant le combat si tu ne fais pas attention, mais ça va être aussi beaucoup plus facile de retirer l'hameçon de la gueule du saumon pour le laisser aller. Opération qui, soit dit en passant, généralement est faite au complet dans l'eau. Hein. On va on va soulever un petit peu le saumon pour prendre une photo, là, quelques secondes, puis il va retourner à l'eau directement, à moins qu'on ait l'intention de le garder. Là, ben, cette année, vous ne pouvez plus.
Voilà, c'est dit. Hey, il y a eu beaucoup de feux de forêt au Québec là, dans les derniers mois. D'ailleurs, on en avait parlé, toi et moi. Puis, j'avais eu une question que j'avais conservée parce que je la trouvais pertinente. Est-ce que ça va avoir un impact sur la chasse, les fameux feux de forêt qu'on a eus? Est-ce qu'il y a des territoires qui vont se remplir parce qu'il y a des territoires qui se sont vidés en raison des feux de forêt?
Définitivement. Définitivement. Ça va aussi occasionner une hausse au niveau des forfaits en pourvoirie, définitivement. Parce qu'il y a une très grande majorité des pourvoyeurs qui ont dû être fermés pendant un bon bout de temps. Ils n'auront pas le choix s'ils veulent survivre de jouer avec leurs forfaits. Au niveau faunique, maintenant, ben, ça a deux effets. C'est quand même assez pervers parce que certains secteurs, il faut comprendre que nos grands animaux, généralement, vont jouer entre deux grands territoires. Un aire de repos puis un aire de nourriture. Donc, l'aire de repos, leur refuge, généralement, c'est une forêt qui est dense. Puis leur aire de nourrissage, par exemple pour les chevreuils et les orignaux, on va prendre les orignaux, c'est les plus faciles à comprendre, ils vont aller dans des bûchers. Donc, des bûchers, c'est des endroits qui ont été abattus à grande échelle où est-ce qu'il y a de la jeune repousse, puis ils vont aller manger là-dedans. Alors, quand les deux sont présents, c'est-à-dire un dortoir, donc un refuge, puis de la nourriture, bien, ils évoluent facilement. Parce qu'il peut aller faire dodo, il peut aller se serrer au frais d'un coulée, etc., puis il peut sortir pour aller manger. Dans le cas où est-ce que tu as des forêts qui sont denses et des bûchers proches, là, dans les secteurs qui ont brûlé, bien, on vient de brûler les repères, on vient de brûler les refuges. Donc, on se retrouve avec, oui, il va y avoir beaucoup de nourriture dans ces secteurs-là. Donc, la repousse annuelle des prochaines années va être très bénéfique pour ces animaux-là, mais elle va l'être en termes de présence et elle va être bénéfique pour les chasseurs, seulement que à la limite... On prend de la ligne vraiment limitrophe, la limite du feu de forêt, où est-ce qu'on recommence à avoir des forêts qui sont peu ou pas endommagées. Parce que cette nouvelle nourriture-là qui va pousser va être intéressante, mais il faut quand même qu'elle soit à proximité de dortoirs. Parce que si elle n'est pas à proximité d'un point de fuite, l'animal n'ira pas. Il n'y a pas une orignale qui va faire 25 km en plein soleil pour aller manger le peuplier de telle place parce qu'il est meilleur que de telle place. Enfin, ils vont se garder quand même très proches. Donc, pour ces secteurs-là, ça va créer beaucoup de nourriture, mais on va attendre une repousse des forêts, donc des bois mous. Donc, généralement, les forêts de conifères vont être les premières à lever. C'est sûr qu'il y a certaines espèces colonisatrices dans le feuillu, mais ils ont certaines limites au niveau de la croissance. Ça va prendre beaucoup de pousses, beaucoup, beaucoup de pousses avant que ça retourne à la normale. Puis, dans certains secteurs, bien, les campements puis les installations ont carrément brûlé au complet. Fait que c'est sûr que ça va impacter.
Est-ce qu'il y aura un impact sur la reproduction?
Oui, c'est sûr et certain qu'il peut avoir un impact sur la reproduction parce que là, tu viens d'éloigner des populations.
Okay.
Tu viens de les séquestrer. Tu viens de les séquestrer parce que tu as des vastes territoires dans lesquels ils étaient habitués de se déplacer où est-ce qu'ils ont pu, ils ont pu accès. C'est sûr que un homme, c'est un homme.
Un homme, c'est un homme.
Ils vont retourner à la chasse aux femelles. C'est sûr et certain que les familles d'orignaux se suivent généralement. Ceux qui n'auront pas été affectés par le feu ou qui ne sont pas carrément brûlés vont se retrouver des espaces de reproduction. Est-ce que ça nuit à la reproduction à un point tel où est-ce qu'on va avoir une chute des cheptels l'année prochaine? Non, pas à ce point-là. Est-ce que ça cause des problèmes? Ben oui, parce que toutes ces étendues-là, ben, tu avais là-dedans énormément de patches de forêt où est-ce que beaucoup de petites familles d'orignaux habitaient et se reproduisaient. Bien là, ils ont été distancés puis ils sont concentrés dans certains endroits où est-ce qu'ils peuvent encore faire dodo puis manger. Bien, c'est sûr et certain que la réalité n'est plus la même. On repart l'échiquier.
Est-ce que... non, ça, on avait répondu à cette question-là. Maintenant, on parle de la préparation là, de la chasse pour les chevreuils, pour ce qui est de l'orignal. Les gars et les filles commencent à aller préparer leur terrain?
Oui, définitivement. Bien, déjà, en début de saison, à la fonte des neiges, la majorité des chasseurs ont été faire ce qu'on appelle les salines. Une nouvelle habitude qui se prend et que je trouve géniale, c'est que souvent, les chasseurs vont, pendant l'hiver, au moment où est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils doivent aller porter leur sel au printemps, question de moins forcer puis rocher, ils vont aller en motoneige porter le matériel nécessaire à proximité des endroits où est-ce qu'ils vont faire les salines. Donc, au printemps, ils ont déjà fait leur saline ou leur station minérale initiale dans le bois, un bloc de sel avec du sel au sol, puis de la jam, puis du soufre, etc. Là, on est rendu au temps de l'année où est-ce qu'on en est à la première pour certains. ceux qui sont plus assidus à la deuxième réactivation de sel. Qu'est-ce qu'on entend par réactivation? C'est que j'ai fait des stations minérales avec des poches de sel qui sont faites pour les animaux et j'ai mis du jam, j'ai mis une couple de choses là. Bien, les animaux, la pluie, le ruissellement ont amenuisé la quantité de minéraux qu'il y avait sur l'endroit où est-ce que j'en ai mis, donc je vais en remettre. Alors, généralement, j'y vais une première fois en début d'été, puis j'y retourne à ce moment-ci. Kate et moi, on est allés la semaine dernière, justement. La semaine qui vient de finir, là, c'est ça, la semaine dernière, on est allés justement dans le coin de Baie-Sainte-Catherine, à Pourvoirie, Baie-Sainte-Catherine, réactiver nos salines. Donc, on remplit les quatre roues de blocs de sel, de poches de sel, de jam, de soufre, de toutes sortes d'affaires. Et c'est aussi un excellent temps dans l'année pour faire nos vasières. Donc, quand on repère, entre autres, sur les dessus de montagnes ou dans des refuges, des zones humides qui sont vaseuses, bien, c'est le bon temps pour aller mettre, et ça, c'est des préparations qui sont spécifiques à ça, des pots de minéraux à vasières. On va minéraliser les vasières, les orignaux vont aller patauger dedans, ils vont boire l'eau qui est en surface, ils vont énormément se servir là-dedans. Bien, ça, c'est le temps de le faire, puis c'est pas juste le temps de le faire pour chasser, c'est le temps de le faire pour vous occuper de votre cheptel dans votre secteur, parce qu'il faut comprendre pourquoi on met des minéraux, si on met des minéraux au sol. Les gens pensent que ça fait pousser les panaches et les têtes des bocs, mais c'est pas ça pantoute. C'est sûr et certain que, comme dans n'importe quelle autre sphère de l'alimentation, ils ont besoin, ces bocs-là, d'avoir un certain nombre de minéraux dans leur alimentation, comme un certain nombre de protéines, comme un certain nombre de vitamines simplement pour croître et être capable de faire des ongles, de la peau, des poils puis du panache. Fait que oui, ça vient aider à la pose des panaches. Mais initialement, les minéraux dans le corps des bêtes, un petit peu comme chez l'être humain, mais carrément comme chez l'être humain, ils sont responsables d'une chose qui est super importante, qui s'appelle l'homéostasie, la capacité du corps à retenir de l'eau. Fait que quand vous faites vos stations minérales, pensez beaucoup plus à l'entretien de votre cheptel de manière générale et entre autres aux femelles. Parce que les femelles, lorsqu'elles sont enceintes, elles en ont une grosse poche d'eau dans le ventre qui s'appelle du liquide amniotique. Plus il y a de minéraux de disponibles, plus on va s'assurer d'avoir des grossesses à terme et des bébés forts. À l'inverse, des territoires qui sont peu minéralisés, fortement humides, on va assister à une hausse des grossesses qui ne se rendent pas à terme, bébés à problème ou bébés trop faibles même pour survivre. Littéralement. Quand vous faites des salines, moi, j'essaie de faire penser, de dire aux gens, faites pas une saline en vertu de tirer un orignal quand il est sur la saline. C'est pas ça, votre game. Votre game, c'est de faire des salines un petit peu partout sur votre territoire. Question d'améliorer l'achalandage d'orignaux. Votre game, à vous, c'est de les caler après ça pour qu'ils viennent vers vous. Donc, l'attrait olfactif avec les urines puis l'attrait sexuel avec le câle pour qu'ils viennent vers vous. Mais là, si vous n'êtes pas dans le bois en train de les réactiver, vous manquez quelque chose de très gros, que ce soit chevreuil ou orignal, on n'oublie pas, il y a une réglementation en place qui interdit le nourrissage avant l'ouverture de la chasse. Parce que là, j'ai vu des carottes dans le bois, j'ai vu des pommes dans le bois, j'ai vu plein de stocks. Je comprends que vous êtes habitué de chasser comme ça, mais présentement, si vous vous faites prendre à les nourrir, ça s'appelle du braconnage. Et vous allez être traduit en justice pour un acte de braconnage. Il faut attendre l'ouverture de la chasse. Puis je comprends, Gisèle, que tu veux mettre des pommes sur ton terrain pour voir les chevreuils. Ça demeure interdit. Il y a des raisons pour ça. Hein, il y a des chevreuils qui traversent les rues pour aller manger chez vous quand leur ravage est dans la forêt l'autre bord, qui se font frapper sur l'autoroute. On ne fait plus ça. Il y a une réglementation là-dessus.
OK. Tu vois, je savais pas. Mais si les orignaux vont... Tu vois, moi, je me suis ramassé avec des chevreuils là, qui sont venus manger sur mon terrain. Pas moi qui les nourrissais, là, ils mangeaient la maudite tête-cède. Oui. Puis ils ont sacré les camps. Ils ont sacré leur camp et ils ont pris une partie de la tête-cède. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais en fait, ils ont tout pété. Là. Ça, je peux rien faire contre ça.
Non, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Puis, si c'est pas intentionnel de cultiver du cèdre, c'est drôle parce que si tu vas dans le coin de... la seigneurie Nicolas Rioux puis ces coins-là, là, il y a des grosses cédrières naturelles dans le bois. Là, puis tu vois, là, les cèdres, là où est-ce que les chevreuils ravagent, là, c'est mangé à hauteur de d'autres chevreuils. Là, ils raffolent de ça.
Ouais, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Les pignons, là, c'est quoi?
Ouais, ils mangent des bourgeons. Ils mangent des bouts. Ils mangent carrément des bouts de branches. Ça mange du cèdre. Ça chique du cèdre. Il n'y a pas de problème. Autant que les épinettes puis les... Du côté des épinettes puis du sapin baumier, ils vont être après les bourgeons tendres au printemps. Puis plus tard, en saison, ils vont se rabattre sur les feuilles des feuillus. Le cèdre, ça, on dirait que c'est comme du sucre à crème. C'est comme tout le temps.
Eh bien. Puis tu parlais tantôt, tu disais, ben, avant les gens ne faisaient pas ça, maintenant tu en vois de plus en plus, ils partent avec leurs quatre roues puis ils vont porter leur équipement dans le bois. Y a-tu beaucoup de vols? T'sais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipements techniques, là, des caméras, les caches, vous laissez du stock là-dedans. Y a-tu beaucoup de vols? T'as entendu parler d'histoires d'horreur?
De plus en plus. Des histoires d'horreur ou des histoires cheap en tabarouette. On a vu sur des caméras des gars arriver avec des quatre roues et une pelle. Il ramasse les pommes du voisin pour aller mettre sur ses spots à lui. Hey, c'est cheap en tabarouette, non? Pour vrai, là.
Ça a
pour
pas vrai, bon,
là. Ça. Il y a des auditeurs là, qui rient présentement en écoutant ça parce que c'est arrivé à eux autres ou à leur chum, là. Et non seulement c'est rendu que ça passe, ça ramasse les caméras. Puis ça aujourd'hui, avec les caméras cellulaires, c'est un petit peu plus hasardeux parce que si tu vas sur un de mes territoires à moi, dis-toi, si tu vois une caméra, c'est pas nécessairement la seule qu'il y a. Il y en a un autre parce que moi, j'interroge pas juste mon site où est-ce que je mets, par exemple, mon sel ou mes pommes. Je mets d'autres caméras en périphérie parce que je sais que les gros bocs ne sont pas dans le tas de carottes et ils se promènent toujours à 4, 5, 600 pieds alentour dans le bois. Fait que si on va sur un de mes spots à me voler mes pommes, grosse chance que je reçoive une photo d'un cas avec une pelle dans mon tas de pommes sur mon téléphone cellulaire. Ça, c'est. Fait que, mais des vols de caméras, des vols de blocs de sel, des vols de saline, monde qui ramasse le sel, qui ramasse la jam avec la pelle, mais remettre ça dans les chaudières pour aller mettre. C'est n'importe quoi. Puis oui, il y a eu aussi des grosses vagues, entre autres l'année passée. Des gars qui se promènent avec des chainsaws qui sacquent des caches à terre parce qu'ils ne veulent plus avoir ces chasseurs-là autour d'eux autres. Soit c'est des anti-chasseurs ou ben non, ils réquisitionnent le territoire, prendre les salines qui sont dans le bois, puis carrément prendre tout le matériel qui est à terre, les pommes, les carottes, le bloc de sel, puis aller retirer ça dans la cache du gars, puis sacrer la cache à terre. On envoie des verres puis des pommures. Là. Autant. Mais comme dans n'importe quel domaine, il y en a des civilisés, puis il y en a des épais.
Tu sais, tu souhaites pas que le chasseur soit aux alentours quand tu fais ce genre de délit-là, là, mais moi, je vais leur donner un conseil. Dites-vous que si vous voyez la caméra, il y a de fortes chances que vous ayez vu avant.
Oui, oui. Puis, si moindrement vous avez affaire à un chasseur qui sait comment interroger un territoire avec des caméras, la caméra que vous avez au spot de pomme, c'est juste pour voir un peu sa quantité de veau et sa quantité de femelle. Dites-vous qu'il y a d'autres caméras tout le tour. C'est sûr, sûr. Parce que le chasseur qui connaît son affaire, il sait que sur le spot, c'est les femelles et les veaux qui viennent, mais que les bocs sont toujours proches, mais à 400-500 pieds en périphérie, ils font ce qu'on appelle la technique en J pour remonter le vent, puis ils veulent... les chasseurs veulent aller connaître la trail de ces gros bocs-là. Fait qu'il y a des grosses chances que vous ayez déjà passé devant 2-3 caméras cellulaires que vous n'avez jamais vues.
Mmh. Puis est-ce que c'est l'équipement? Est-ce que c'est si cher que ça pour qu'il y ait autant de vols? Parce que toi, tu me parles de vols de carottes puis de pommes. Je veux dire, ça coûte rien. Là. Pourquoi les gens se volent?
C'est quasiment ce que j'avais le goût de te répondre. Pourquoi on parle de prix d'équipement quand le monde vole du sel à appel? OK. Mais on a vu des gens aller chercher pis ça, là. Quasiment la misère à le dire à la radio parce que je veux pas que personne ne le fasse. Hein. Mais des gens se présenter chez Renault Dépôt puis Home Hardware puis aller acheter des poches de sel à système de filtration pour mettre ça pour attirer les animaux. Les araignées vont rentrer dedans puis les chevreuils vont rentrer dedans. Mais avez-vous une idée du tort que vous créez à leur santé? Mais c'est pas fait pour ça. Vous êtes en train de les empoisonner. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a des compagnies comme ici, même ici dans Beauce, un port export fourrure sont rendus qui font. Ils envoient carrément leur stock dans des laboratoires externes pour les faire accréditer santé animalière puis nappe phréatique. Puis ça, là, ça s'en vient fort. Puis j'encourage les autres à le faire en tabarouette parce qu'il y a certains éléments qui sont présents, de l'arsenic, puis ben des métaux lourds, puis etc., qui sont présents dans les sels qu'on utilise pour déglacer le terrain, puis etc., qui sont excessivement nocifs pour les reins, le foie des animaux, puis pour la nappe phréatique environnante. Il ne faut pas mettre n'importe quoi là-dessus. Les gens, autant on a une catégorie de chasseurs qui sont hyper consciencieux et qui vont justement aller pour des produits qui sont certifiés santé animale, autant on en a qui s'en foutent complètement et qui, oui, vont aller jusqu'à voler des pommes et des carottes. Caméra de chasse, bien souvent, ils les pètent. Souvent, ils ne les volent pas, ils les pètent. Ils sacquent un coup de marteau dessus ou quelque chose comme ça. Quand ils partent avec, c'est parce qu'ils savent que ce n'est pas une caméra cellulaire, parce que la caméra cellulaire avec un GPS, je vais te suivre dans ton char, là, c'est littéralement. Mais les caméras... Les petites caméras là, qui n'ont pas de. Ben, pas les petites caméras, c'est quand même de très bonnes caméras qui n'ont pas de système cellulaire dessus. Ça vaut quand même entre, mettons, en spécial, là, tu es chanceux si tu pognes ça, là, 49,99, aller jusqu'à 159, 179,99. On est rendu ces caméras-là. ils filment en 4K, puis tu sais, ils ont des cristis de bonnes lentilles avec des black LED pour pas se faire repérer la nuit par le gibier pour pas l'effrayer. Des caméras à 200-250$ et même plus que ça, il y en a là. Fait que oui, c'est sûr que c'est des items qui peuvent être intéressants, mais c'est aussi un peu épais que de te donner autant de troubles qu'à faire des kilomètres et des kilomètres dans le bois. D'un fois, tu tomberais sur un tas de carottes pour voler une caméra.
Ben oui, exact.
Ben, autant que les gars, présentement, ils volent les catalyseurs après les chars avec des zip cuts. Ben
oui, il y a ça. Il y a toujours des cabochons, mais c'est ça. J'étais curieux de savoir s'il y avait autant de vols qu'on m'en avait jasé. T'sais, moi, je me souviens d'un gars qui nous avait dit, dans le temps, quand on était dans une autre station, Martin, le gars s'est fait voler sa cache au complet.
Oui.
Ils ont débarqué la cache, ils l'ont traînée, ils sont partis avec. Je veux dire, quelle misère que tu donnes dans la vie.
Je vais te parler d'une catégorie de plaisanciers qui se font encore plus voler dans le domaine de la chasse et de la pêche, là, mais je vais passer par une petite anecdote. J'ai travaillé quand j'étais jeune au club de golf de Loretteville. Puis la toilette qui est entre le 9 et le 10, là, c'est sur le bord de la traque, là, on ne s'était pas volé le papier de toilette. On s'est fait voler la bolle de toilette à quelques reprises. OK? C'est ça, non? Non, mais on est rendu... Tu sais, c'est sociétaire comme problème, pas à chasse, pas à pêche. Les plus ciblés par le vol, encore cette année, puis là, je ne le nommerai pas parce que je ne sais même pas s'il veut que j'en parle, encore cette année, on est rentré dans une super pourvoirie, des gens accueillants, là, aimants, là, le cœur sur la main, s'est fait vider sa pourvoirie pendant l'hiver ou au printemps. C'est arrivé plus au nord, dans Mont-Valin, à plusieurs reprises aussi, puis les pourvoyeurs s'aident dans ce temps-là. Pascal nous avait dit, écoute, j'ai vu des trails de skidoo rentrer chez le pourvoyeur voisin, je suis allé, puis plus de frigidaire, plus de scie, plus de ça, tout ce qui est équipement au propane, parti de là, puis là, j'ai suivi les traces le plus loin possible, essayer de trouver c'est qui. Les pourvoyeurs sont ciblés, surtout depuis l'apparition des panneaux solaires puis des batteries au lithium qui valent très cher. Bien, les panneaux solaires, ils sacquent carrément les espèces de mâts en métal sur lesquels les panneaux solaires sont dans les airs. Là. Ils déboulonnent ou ils cotent les boulons avec des graideurs. Ils tirent ça à terre, ils démangent les panneaux solaires, ils empilent ça dans les trailers puis ils sacquent leur camp. C'est grave, là. C'est grave. Nous autres, on s'est volé un peu de pommes. Eux autres, ils se font carrément vider des chalets.
Incroyable. Martin, président du groupe Aventure Chasse-Pêche, comment on fait pour vous suivre sur les internets, monsieur?
Le plus simplement du monde, évidemment, les médias sociaux. Notre plateforme, la nouvelle plateforme Aventure Chasse-Pêche, allez faire un tour. Il y a du contenu vidéo là-dedans pour vous perdre pendant les 100 prochaines années. Du contenu à nous, mais beaucoup de contenu de collaborateurs et en français et en anglais. Tous les jeudis soirs, 21h sur les ondes de Télémag, en simultané sur YouTube en 4K et sur Facebook. Et évidemment, à tous les 3 mois, donc de manière trimestrielle, notre magazine. Le nouveau est en kiosque présentement. Puis ça baisse rapidement. Vous êtes fous dans la tête cette fois-ci là, avec le nouveau magazine, la quantité de nouveaux abonnements. J'en reviens même pas que du papier. Alors, au moment où est-ce qu'il y a des magazines qui ferment, soit en augmentation comme ça, c'est un retour d'ascenseur qui est mongol, puis je vous en remercie. Continuez à nous lire. On a des bons gens, des bons artisans qui écrivent, des bons rédacteurs qui écrivent. On a du bon contenu là-dedans. Sinon, venez nous parler sur Facebook. On est relativement parlable, généralement.
Ton équipe et toi êtes les seuls responsables de votre succès.
Bon, ils sont bons, hein?
Martin Bourget, salut!
Hey, salut!
Merci, on fait une courte pause, on revient.
Marceau, le soir. Le vendredi 11 août, célébrez le 75e anniversaire du Patro Rocamadour en participant à sa grande fête foraine. Dès 14h, joignez-vous aux festivités gratuites et ouvertes à tous. Plus de 20 jeux ludiques, animations et maquilleurs sur place, vente de livres et vêtements usagés, camions de rue en soirée et plus. C'est l'occasion parfaite pour terminer l'été en beauté, entre amis ou en famille, beau temps, mauvais temps. Boulevard 102.1 et le Patro Rocamadour, fiers partenaires de vos célébrations estivales.
Les inscriptions du Collège Barthes et du CRTQ, c'est maintenant. Viens étudier au centre-ville avec des enseignants spécialisés dans leur domaine. Technique juridique, marketing des médias sociaux et animation radiophonique et web. Les programmes du Collège Barthes sont admissibles aux prêts et bourses. Détails sur barthes.ca et sur crtq.ca.
Chez Patio Boréal, votre terrasse de rêve n'est qu'à portée de main. Laissez tomber les mois d'attente. Seulement 4 semaines suffisent pour débuter les travaux. Et si la plus belle terrasse en ville, c'était la vôtre? C'est possible avec les experts de chez Patio Boréal. Réservez dès maintenant patioboréal.ca.
Pour votre entreprise, choisir l'équipe de TML Informatique, c'est savoir s'entourer d'experts pour être bien conseillé. C'est aussi une offre complète de services en cybersécurité pour vous assurer une tranquillité d'esprit pour que vous puissiez vous concentrer sur vos activités professionnelles. TMLinformatique.com, revendeur certifié des produits Lenovo.
Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici avec plein art. Participez au concours matière à découverte. Plus de 3 000 $ en prix à gagner, dont une nuitée au Fermont le Château Frontenac. Pour participer, repérez les trois pastilles matière à découverte et retenez le numéro de kiosque où elles se cachent. Participation sur place. On se retrouve à plein art. Entrée gratuite à l'espace 400. Une collaboration Week-end 91.9, le Fermont le Château Frontenac, Strom Spa Nordique, Omer de Serre, Musée de la Civilisation, les Impressionnistes et Distillerie Ubald.
Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Comme celui-ci, avec lequel même plusieurs heures dans le trafic équivaudront toujours à zéro émission. Polyvalent, stylé et entièrement électrique, le nouveau Toyota BZ4X fait sa marque, tout en vous aidant à réduire votre impact. Quand on a besoin d'efficacité énergétique, c'est l'heure Toyota. Voyez le nouveau BZ4X 100% électrique sur achetezmatoyota.ca ou visitez votre concessionnaire Toyota.
De l'asphalte. Du ciment. Du béton armé. Il n'y a rien qui résiste à un marteau-piqueur. Surtout pas des oreilles. L'exposition répétée au bruit sur un chantier de construction peut causer des problèmes d'audition et même rendre sourd. Au travail, mettons en place et appliquons les mesures requises pour éliminer ou atténuer les sources de bruit. Un message de la CNESST.
Le cinéma, les jeux vidéo ou la publicité te passionnent? Voici ta chance d'en faire carrière. Le Collège Barthes offre plusieurs programmes. Animation 3D, effets visuels, programmation en jeux vidéo, techniques cinématographiques et télévisuelles, et graphisme et motion design. Les programmes du Collège Barthes sont admissibles aux prêts et bourses. Détails sur barthes.ca.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est ainsi que se termine cette première de Marceau le soir, première de la saison qu'on a réalisée avec Martin Bourget, qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche, un gars super sympathique. Et ben voilà, en espérant que vous ayez apprécié, chasseurs, pêcheurs et autres, j'en doute pas, on apprend toujours plein de choses avec Martin Bourget, qui sera présent avec nous tout au long de la saison, une fois de temps en temps, toujours bien le fun d'y parler. Donc voilà, on sera là pour la prochaine saison. Puis je greffe à mon équipe l'excellent Thomas, que vous pouvez entendre sur les ondes de Boulevard le week-end, qui sera avec moi à titre de producteur et de recherchiste de l'émission, ce qui fait en sorte que ça devrait grandement s'améliorer, cette émission-là que je fais depuis l'an passé. Et je pense que ça vous plaît. Puis si ça peut nous amener des invités tout aussi pertinents qu'on a eu dans la dernière saison, ben ce sera à mon bénéfice et au bénéfice de nos auditeurs. Actuellement, sur Québec, c'est nuageux. À certains endroits, il pleut. C'est ce qu'on nous mentionne pour ce qui est de la soirée. Des orages parfois fortes, de la pluie parfois forte avec risque d'orage. Voilà, de la pluie parfois forte avec risque d'orage. 15 à 25 mm annoncés. Pour ce qui est de demain, des averses avec risque d'orage. Entre 20 et 30 mm annoncés. Maximum de 17 pour ce qui est de demain. Mercredi, de la pluie. Jeudi, des averses. Vendredi, des averses. Hop! Et là, le samedi, on passe d'une alternance de soleil nuage avec un maximum de 23. Donc, on lâche pas. Salutations à tous ceux qui viennent de revenir de vacances. Salutations à tous ceux qui sont en vacances présentement. J'espère que vous passez du bon temps, les amis. Je vous laisse là-dessus. On se rejase demain, 11h30, pour ce qui est de Marceau le midi, avec Tom qui sera là, Jeff aussi qui sera là. Et la semaine prochaine, ben, c'est Pascal CV qui se greffera à l'équipe dans Marceau le midi. Et Pascal qui peut être très fier de ce qu'elle a accompli dans la dernière année, puisqu'elle aura sa propre émission sur les ondes de boulevard de 10h à 11h avec son émission qui s'appellera Leur CV. Donc, on est très content d'accueillir Pascal dans la programmation. Donc, émission pour Pascal CV, c'est la grosse nouvelle. Je vous souhaite de passer une belle soirée, puis on se rejoint demain. Salut!
Marceau, le soir.
Le vendredi 11 août, célébrez le 75e anniversaire du Patro Rocamadour en participant à sa grande fête foraine. Dès 14h, joignez-vous aux festivités gratuites et ouvertes à tous. Plus de 20 jeux ludiques, animations et maquilleurs sur place, vente de livres et vêtements usagés, camions de rue en soirée et plus. C'est l'occasion parfaite pour terminer l'été en beauté, entre amis ou en famille, beau temps, mauvais temps. Boulevard 102.1 et le Patro Rocamadour, fiers partenaires de vos célébrations estivales. Cet été, plusieurs chantiers routiers seront présents à Québec. La Ville de Québec vous invite à planifier vos déplacements, que ce soit en partant plus tôt, en utilisant les applications de navigation, le transport en commun ou actif, vous réduirez vos irritants. Votre collaboration est essentielle dans l'amélioration de notre ville.
Du 6 au 13 août, rendez-vous à Saint-Roch-des-Aunais à la Semaine du patrimoine pour vivre une riche programmation 100% gratuite. Avis aux curieux, découvrez comment est fait le lassage des raquettes, l'assemblage de jouets de bois ou la fabrication de vire-vent. Embarquez dans un minibus pour vivre l'un des circuits patrimoniaux ou plusieurs anecdotes vous attendent. En grande primeur, la soprano Peggy Bélanger offrira un concert de chant baroque. Pour des festivités étonnantes, c'est en Chaudière-Appalaches que ça se passe. On se donne rendez-vous à la Semaine du patrimoine des Aunais?
Avec tout ce qu'il y a à faire cet été, comme profiter du beau temps, les grands feux Loto-Québec ou le festival Cigale, on peut dire que ça bouge pas mal à Québec. Le RTC a prévu le coup avec des stationnements gratuits et des navettes qui vous amènent directement au cœur de l'action. Tous les détails au rtcquebec.ca/événements. Le RTC, on bouge avec vous.
Vous en avez jamais assez de vos animateurs préférés. Réécoutez les meilleurs segments des shows sur le blvd.fm et sur l'application.
C'est en 1983 que Hyundai ouvre l'une de ses premières concessions au Québec. 40 ans sur les routes avec vous. 40 ans d'innovation continue. Et avec près de 3 millions de véhicules vendus au Canada, dont 1 million au Québec, Hyundai est très fier d'avoir été adopté par les gens d'ici et de se sentir comme à la maison sur les routes de la belle province. On peut dire qu'on en a fait du chemin ensemble. Venez célébrer avec nous pendant l'événement 40e anniversaire Hyundai. De nouveaux véhicules arrivent chaque jour. Commandez le vôtre dès aujourd'hui. Des conditions s'appliquent. La disponibilité des véhicules varie selon le modèle.
Il n'est pas trop tard pour t'inscrire à un programme qui peut te mener à travailler partout dans le monde et à améliorer ton anglais. Le DEC en animation 3D et le DEC en informatique du Collège O'Sullivan sont admissibles aux bourses du gouvernement. Des locaux au cœur du centre-ville et les meilleurs ordinateurs à ta disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le rêve. Viens chatter avec nos conseillers sur osullivan-quebec.qc.ca. Début des cours le 21 août. On a une place pour toi.
Ça fait plusieurs années que j'assure ma maison chez PMT Roy Assurance.
Moi aussi. Ça fait plus de 50 ans.
Moi, je viens d'assurer ma première maison.
Nous faisons des soumissions depuis 1927. Demandez la vôtre dès maintenant et faites partie de l'histoire. PMT Roy Assurance et Services Financiers.
Boulevard 102, c'est votre radio rock. Merci d'être là. On est de plus en plus nombreux à avoir du fun.
Parce que vous êtes les meilleurs au monde.
J'adore 102!
BLVD 102.1. Vous connaissez le feeling. Les lumières viennent de s'éteindre. La foule se soulève pour en avoir encore. C'est là que la magie opère. Le rappel d'Elo, c'est maintenant. Avec Elodie Derry.
Hey, salut les chums, salut les rockers. J'espère que vous êtes en pleine forme. Lundi, retour au travail pour plusieurs personnes. Là, à Boulevard 102, c'est la musique qui va prendre toute la place pour les quelques prochaines heures. Et mon nom est Élodie Derry, j'ai le privilège de vous accompagner à travers tout ça. On va se le dire, on a eu une belle journée de radio aujourd'hui à Boulevard. C'est le retour pour plusieurs animateurs. Donc, vous avez pu entendre des voix là, que vous n'aviez pas entendues depuis longtemps. C'est le retour de Reg Laplanche. C'est le retour de Yannick Marceau. Vous avez entendu aussi Denis Gravel, Véro Bergeron. C'est vraiment le fun. La nouvelle programmation officielle, là, vous allez plus l'entendre dès la semaine prochaine parce que là, bon, Pascal est encore en congé. Aujourd'hui, il y a Max qui avait un congé aussi, mais ça s'en vient, les amis, et déjà, ben, c'est le fun de se retrouver ensemble. Parlant de Max, la plage horaire de 19h lui appartiendra dès demain. Là, c'est Hélo qui vous accompagne parce qu'il a pris congé. Moi, je m'en vais tranquillement vers un congé de maternité, là, fait que vous allez m'entendre de moins en moins. Mais je vous aime et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Voici Bush et Glycerine. Must be your skin, I'm sinking. Must be for real, cause now I can feel. I didn't mind, it's not my kind. It's not my time to wonder why. Everything got white, everything's gray. Now you're
face, could love you more, you got a beautiful taste. 2-1.
City.
There's no one here who can touch you now. Caught the last flight out of LAX with your one-way ticket, New York bound. Fly so high, don't make a sound. Don't you forget what goes up must come down. Climb so high, tell me how it feels. Call me when you're ready to be real. Like Madonna, hallelujah. Makes no difference here, so let's be real. Like Madonna, my black flower. Nowhere left to run, nowhere left to hide. You're not. Alone right now, but in the background there's a muffled light.